affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Si l'on demande aux Français leur choix parmi les présidents qu'ils jugent les plus grands, rares sont ceux qui citeront Georges Pompidou. Non pas qu'ils ne l'aiment pas, au contraire, ils l'aiment, mais d'un amour tempéré, tout en mesure. Peut-être cela s'explique-t-il justement par la personnalité elle-même tempérée et l'exercice du pouvoir mesuré qui a caractérisé Georges Pompidou. Après avoir grandi à l'ombre du grand Charles de Gaulle, Georges Pompidou a incarné une sorte de gaullisme apaisé, plus empathique qu'héroïque. Or, les Français, admettons-le, ont un certain goût de la geste politique héroïque. Comme on a pu le constater encore récemment, ils n'aiment pas se contempler dans un président normal. Ils ont un certain goût pour l'exceptionnel, du moins à la tête de l'État. Et pourtant, aujourd'hui, Georges Pompidou revient à la mode. Si bien qu'on lui consacre des publications, des colloques. Peut-être cela s'explique-t-il en partie par le fait que nous allons commémorer le cinquantenaire de son élection à la présidence de la République. Mais il y a sûrement autre chose. Une forme de nostalgie qui s'attache à sa personne, mais certainement aussi à son époque. Pompidou incarne mieux que quiconque les Trente Glorieuses, la prospérité, l'entrée dans la modernité, le développement des loisirs, la libération des mœurs, une époque dont nous aimons nous souvenir comme d'une époque heureuse, presque insouciante. Mais peut-être est-ce une illusion rétrospective, car Georges Pompidou, dans le feu des événements, au cœur de cette période, en 1969 exactement, rédigeait lui un ouvrage de réflexion dont le titre exprime une inquiétude. Ce titre, c'est « Le nœud gordien ». Ce livre vient d'être réédité aux éditions Perrin, et nous allons le feuilleter, nous y plonger, en compagnie d'Éric Roussel. Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, vous avez consacré de nombreuses biographies aux hommes d'État, notamment français, et vous êtes à l'initiative de la réédition de cet ouvrage. J'ai oublié de préciser, vous étiez membre de l'Académie des sciences morales et politiques, ce qui explique aussi votre présence. Et donc, vous êtes à l'initiative de la réédition de cet ouvrage. Et ma première question porte sur, justement, cette volonté de le rééditer. En quoi vous semble-t-il important aujourd'hui ?
Je voudrais d'abord revenir, si vous le voulez bien, sur la présentation que vous avez bien voulu faire. C'est vrai que Georges Pompidou n'incarne pas le personnage, le héros auquel les Français portent spontanément leur suffrage. Mais il y a quand même quelque chose de très frappant. C'est d'abord, durant son septennat, il a une popularité très importante, puisque même à la veille de sa mort, et dans un climat qui, il faut bien le dire, était quand même assez lourd, parce que c'était depuis 2 ans, la maladie, comme sa maladie était quasiment publique, même si la presse n'en parlait pas beaucoup, et donc ça avait altéré le climat politique, et malgré tout, à la veille de sa mort, Pompidou avait encore 55% d'opinion favorable. Alors, bon, ensuite, il a été... il est mort, une autre page s'est ouverte, enfin, plusieurs autres pages se sont ouvertes. Mais il y a quelque chose, quand même, qu'il faut noter, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu des publications de livres de Georges Pompidou, ces publications ont connu un grand succès. Alors, c'est pas le cas, d'ailleurs, l'exception, ça a été de Nœud gordien, parce que le Nœud gordien, qui est un essai que Georges Pompidou avait écrit pendant l'été 1968, juste après les événements, au cours desquels il avait joué un très, très grand rôle en tant que Premier ministre. Ça a été écrit donc pendant la période où il était en quelque sorte un peu en vacances.
Oui, qui a suivi les événements.
Voilà, qui a suivi les événements. Il était en recul. Et il n'a pas eu le temps de le terminer, puisqu'il a été élu président de la République. Et ce livre a été publié seulement après la mort de Georges Pompidou, mais très peu de temps après. Mais au fond, il est tombé à un moment où on pensait à autre chose, où là, il a eu un succès d'estime, mais enfin, à mon avis, il n'avait pas reçu l'accueil qu'il méritait. Mais quand Madame Pompidou et Alain Pompidou ont publié Pour rétablir une vérité, ça devait être en 83, je crois, je ne sais plus exactement la date. Début des années 80. Ça a été un très très grand succès. C'est un livre qui a dû se vendre à 200 ou 300 000 exemplaires, donc c'est vraiment considérable. Et donc c'est quand même la preuve que le personnage intéressait. Et lorsque j'ai publié avec Alain Pompidou en 2012 les lettres, notes et portraits de Georges Pompidou, c'est-à-dire des écrits inédits, ce livre a eu vraiment un grand succès. À la fois, il a été bien accueilli par la presse et il a eu même un succès commercial inespéré que nous n'attendions pas d'ailleurs. Et ce qui prouve que le personnage, quand même, s'est imprimé dans la mémoire nationale. Il est, à mon avis, il incarne au fond... Pompidou est quelqu'un qui, par son parcours et par son personnage, est une sorte de, comment dire, de synthèse entre ce qu'il y avait de mieux, finalement, dans les hommes politiques de la Troisième République, et puis la génération du gaullisme. Quoi, enfin, je crois que c'est un peu ça, si vous voulez. Il incarne l'homme politique très cultivé, de haut niveau, un peu comme avant la guerre, des gens comme Tardieu ou Herriot. Enfin, il y a eu un certain nombre de grands...
Blum
aussi, oui, Blum, bien sûr. Et voilà, donc je pense que... Il y a quand même dans la mémoire nationale, là, si vous voulez, la reconnaissance d'un personnage qui a tenu son rang et qui était à un certain niveau. Et puis, je crois que ce que l'on retient, au fond, c'est qu'il a eu la lourde charge de succéder à De Gaulle et qu'il l'a fait, bon, il a, naturellement, à sa manière, et puis malheureusement avec les problèmes liés à sa maladie. Mais enfin, qu'il s'est montré à la hauteur de la tâche, ce qui n'était pas évident au départ. Voilà, je pense que c'est ça qui explique. Et puis, comme vous l'avez dit, le fait aussi que son personnage s'est en quelque sorte identifié à cette période de prospérité qui, d'ailleurs, d'une façon un peu symbolique, a pris fin très peu de temps avant sa mort, puisque avec le premier choc pétrolier...
Voilà. Alors, oui, je suis tout à fait d'accord qu'il suscite une réelle affection des Français à l'égard de la figure de Pompidou, mais c'est un personnage qui ne déchaîne pas les passions, et du reste, j'évoquais dans l'introduction un certain goût français pour les figures politiques héroïques. Lui-même, dans Le Nœud Gordien, théorise cette notion, et il la met en opposition à une autre qui est celle du père. Il dit dans l'histoire des chefs d'État, il y a d'un côté les héros, de l'autre les pères, dans lesquels par exemple il met une figure comme Saint-Louis. Oui. C'est-à-dire que plus protectrice en quelque sorte, oui, qu'entraînante.
Il n'avait lui-même aucun goût, si vous voulez, de ce qu'on appelle aujourd'hui la communication. Ça c'était pas du tout son camp.
Non, je voulais se poursuivre.
Non, et il y a une phrase, lorsqu'il a été élu, il a eu cette formule, peu importe finalement qu'on parle de moi, l'essentiel c'est que mon mandat soit une période d'expansion, de prospérité, etc. Donc il n'y avait pas chez lui une sorte de nombrilisme, si vous voulez, exacerbé, comme on a pu connaître des exemples par la suite.
En même temps, on dit souvent qu'il est...
Il y a autre chose qui explique aussi, qui humanise, si vous voulez, son personnage, et par rapport à d'autres destins plus ou moins comparables, c'est le fait que c'est un destin... Enfin, parmi tous les présidents, c'est sans doute le parcours le moins prémédité, puisqu'il est... Il est normalien, il est professeur, il entre au cabinet du général de Gaulle, mais enfin, il est évident qu'à ce moment-là, il ne pense pas une seconde à être président de la République.
Oui, il n'y pense pas tous les matins en se levant, comme beaucoup d'autres.
Voilà, alors il y pense peut-être à partir de 1962, quand il devient Premier ministre, parce que là, bon, c'est évident, il est en quelque sorte le numéro 2. Mais enfin, jusqu'à cette date... d'ailleurs, il le disait, au fond, c'est un homme dont l'ambition, au bon sens du terme, s'est révélée d'étape en étape. Et c'est une grande différence par rapport, par exemple, François Mitterrand, il y a c'était Jacques Laurent qui racontait qu'il se promenait avec lui dans les rues de Vichy pendant la guerre. Il y avait il tombe devant dans une vitrine, il y avait une portrait du maréchal Pétain. Et alors avec le petit groupe dans lequel ils étaient, se met à dire, ben voilà, bientôt il y aura une autre photo. Alors tout le monde pensait à De Gaulle et Mitterrand dit oui, mais enfin plus tard il y aura la mienne. C'est donc ce qui montre quand même une ambition incroyable pour quelqu'un qui était un tout petit fonctionnaire de l'État français.
Patience, longueur de temps, voilà. Volonté.
Voilà.
S'agissant de Pompidou, de fait, on a l'impression qu'il est à chaque fois appelé plus qu'il ne...
Il force quelquefois un peu le destin, parce que la légende de l'agrégé sachant écrire, là, on a longtemps dit qu'il avait été recruté en 1944, juste à la Libération.
Oui. Trouvez-moi un normalien qui sache écrire.
Ça, c'est faux.
C'est un peu de storytelling, quand même, déjà.
Oui, non, oui ça a été. Mais en réalité, non, c'est Georges Pompidou qui a fait acte de candidature. Parce qu'il avait envie, au fond, il n'était pas un mauvais professeur, hein, mais je crois qu'il s'ennuyait, en fait, dans ce métier. C'était pas son... Ça ne correspondait pas à ses dons. D'ailleurs, il y a quelque chose d'assez frappant, je reviens au fond à ce que je disais concernant... Pompidou était normalien, et il avait eu l'idée... De se présenter au concours de l'inspection des finances. Et puis finalement, il y a renoncé, et sans doute parce qu'à l'époque, le concours de l'inspection des finances paraissait réservé à une classe, enfin la haute bourgeoisie, disons. Donc Pompidou, évidemment, ne faisait pas partie. Et on a l'impression qu'il y a eu une sorte de timidité, si vous voulez. Il n'y a aucun doute que si l'ENA avait existé, Pompidou serait devenu énarque. C'était plutôt ça, ça correspondait plus à son goût. Et dans le grand bouleversement de la Libération, et bien à ce moment-là, il s'est dit ben voilà, qu'il pouvait changer d'orientation. Et puis il avait un ami qui était au cabinet du général de Gaulle, il lui a écrit. Et puis voilà, ça c'est. Et puis comme il avait des dons, il a été rapidement remarqué par le général, jusqu'au jour où il est devenu vraiment son homme de confiance.
Alors, deux choses. La première qui m'a surprise, c'est lorsque vous expliquez qu'il avait une forme de distance à l'égard de la communication. Est-ce qu'il n'a pas plutôt transformé cette communication ? C'est-à-dire qu'on sort de l'ère de la grandiloquence qui pouvait être celle du général de Gaulle, mais en même temps, moi j'avais plutôt le sentiment qu'il était dans une communication un peu plus ciselée, jouant sur les ressorts de la sincérité, de l'humanité, de la proximité. Je crois qu'il fait partie de ceux qui, pour la première fois, ouvrent la porte de la demeure familiale aux médias, le recevant avec son épouse Claude, dans une mise en scène plus intimiste.
Oui. Mais enfin, ça reste quand même, si vous voulez, par rapport à ce qu'on a connu par la suite, ça reste quand même une tentative assez timide. Et je sais un peu comment ça s'est fait. Ça s'est fait en grande partie à son corps défendant. Il n'avait pas beaucoup de goût pour ça. Il était très soucieux de préserver sa sphère privée. Donc, tout ce qui risquait Et surtout, alors après, quand il est devenu président de la République, il faut évoquer ce qui s'est passé en fin 68, c'est-à-dire l'affaire Markovic, qui l'a quand même beaucoup, beaucoup marqué. Et là, ça l'a blessé, et ça l'a conduit aussi à avoir encore plus de réserves, parce que, au fond, cette histoire avait... D'ailleurs, ça n'a pas eu...
Pour les plus jeunes auditeurs, il faut peut-être rappeler ce dont il s'agit.
Oui, l'affaire Markovic, c'est une affaire assez terrible qui a éclaté après le Georges Pompidou, donc, est Premier ministre jusqu'au lendemain des événements de mai 68. Ensuite, il est simplement député du Cantal. Et tout le monde sait qu'il a vocation, un jour ou l'autre, à succéder au général de Gaulle. Enfin, tout au moins, à se porter candidat à sa succession. Et à l'automne 1968, éclate une affaire qui, au début, est une affaire de droit commun. En ce sens qu'on... On retrouve sur une décharge municipale à Élancourt, dans les Yvelines, le cadavre d'un garde du corps de l'acteur Alain Delon. Et donc, à la suite de ça, une enquête est ouverte, etc. Et on s'aperçoit que Alain Delon a rencontré Georges Pompidou chez Pierre Lazareff, parce que Lazareff était le directeur de François, il recevait beaucoup dans une maison qui était devant à côté de Marly. Et ils avaient joué tout simplement au poker, voilà, ça n'avait rien de... Et sans que Georges Pompidou d'ailleurs le sache vraiment au départ, le nom de Georges Pompidou est mêlé à cette affaire, en ce sens que il apparaît au cours de l'enquête que ce Markovitch participait à des soirées, disons, d'un genre un peu spécial.
C'est partie fine.
Voilà. Et il mettait en cause directement, non pas Georges Pompidou, mais Madame Pompidou. Et lorsque Pompidou, évidemment, a appris cette affaire, il a été le dernier, d'ailleurs, à en être informé. Il est tombé de sa chaise, évidemment. Et il a été absolument furieux. Il a réagi, selon son expression, comme une sorte de tigre blessé. Ça a changé le personnage. Et ça l'a sans doute déterminé à rater, si vous voulez, le moment où il se révélerait son intention d'être président de la République. Ça a joué, en tout cas ça a renforcé sa détermination, il n'y a aucun doute. Voilà, donc, et alors à la suite de ça, au fond cette affaire avait... Ça ne lui a pas vraiment nui, parce que c'est resté finalement, ça a duré peu de temps, c'est resté quand même dans un cercle parisien. Et à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, etc. Aujourd'hui, ça prendrait une ampleur considérable, si une affaire comme ça. À l'époque, c'était tout de même plus discret, mais ça avait pris une certaine consistance dans le milieu parisien, parce que Georges Pompidou allait en vacances à Saint-Tropez, enfin autrefois d'ailleurs, il n'y allait plus à ce moment-là, et qu'il voyait des gens qui étaient... il voyait des acteurs, il aimait bien sortir en dehors de son milieu, il n'avait pas de hier. Bon, donc, à une époque où quand même il y avait une sorte de hiérarchie sociale quand même qui était beaucoup plus lourde qu'aujourd'hui. Et le fait de passer
d'un milieu à l'autre,
et suscitait des interrogations. On se disait, tiens, pourquoi va-t-il à Saint-Tropez ? Voilà, donc à la suite de ça, il a fait très attention à ne pas offrir matière, si vous voulez, à critique. Et donc il allait à Brégançon et non plus à Saint-Tropez.
Le livre s'ouvre sur d'autres considérations, beaucoup plus vastes. Vous l'avez dit, il a été écrit juste après les événements de mai. Il consacre le premier chapitre aux événements de mai, mais en réalité, il se retrouve en filigrane de l'ensemble de l'ouvrage, avec une réflexion qui frappe par sa finesse,
oui.
Sa mesure et sa finesse. Est-ce que vous pouvez nous en donner les grandes lignes pour poser le décor, en quelque sorte.
Alors, pour comprendre le livre, il faut peut-être aussi dire un mot du rôle qu'il a pu jouer en mai 68, parce que ça éclaire quand même.
Oui.
Donc, il est Premier ministre lorsque ces événements de mai 68 éclatent. Ça commence fin mars, finalement. L'agitation commence fin mars 1968, à Nanterre. Sur un problème qui paraît aujourd'hui un peu anecdotique, c'est-à-dire c'était le problème de la liberté sexuelle à l'intérieur des dortoirs de l'université de Nanterre. Et il y avait déjà, l'homme qui était déjà à la manœuvre, si on peut dire, était un dénommé Daniel Cohn-Bendit. Et puis c'est bon, cette affaire grossit, il y a jusqu'au moment où, au début du mois de mai, des troubles très, très violents éclatent au quartier latin, etc. Bon, la suite est bien connue. Et donc Georges Pompidou se trouve en première ligne, et assez vite, finalement, en opposition larvée, il faut bien le dire, par rapport au général de Gaulle. Le général est quelqu'un qui a une... D'abord, c'est un militaire. Il a vraiment le culte de l'État. C'est aussi l'homme de sa génération. Il n'est plus, il approche quand même des 80 ans. Ce qui se passe, il le dit lui-même.
Il ne comprend pas.
C'est une situation qui me paraissait insaisissable.
Cela dit, pour beaucoup d'analystes ensuite, ça reste en grande partie insaisissable.
On voit mieux quand même avec le recul ce qui a pu se passer, mais pour un homme de la génération et de la formation du général de Gaulle, c'était difficile. Il n'arrivait pas à concevoir que des gens qui bénéficiaient, on était dans une période de forte expansion, il y avait ceux qui se révoltaient n'étaient pas les plus défavorisés, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé avec les gilets jaunes, c'était vraiment moi j'ai le souvenir d'avoir...
Oui, parce qu'à l'époque les étudiants étaient essentiellement des bourgeois.
Voilà, j'ai le souvenir d'avoir vu, j'avais assisté au défilé du 13 mai là, de la République dans Ferrochereau. Et il y avait tous les hommes politiques, là, ça avait fini par... il y a eu un mouvement de contestation qui avait gagné l'ensemble de la classe, la classe politique de l'opposition de gauche. Et il y avait une délégation, je me souviens très bien, c'était vraiment significatif, du lycée Janson de Sailly. C'était les élèves de Janson de Sailly. Et ils défilaient. Ils avaient une pancarte, nous sommes des gauchistes enragés. Bon, ça résume tout. Hein, ça explique l'incompréhension de Gaulle, évidemment, devant ces galopins. Que veulent-ils ? Le petit-fils du général, Yves de Gaulle, a raconté que son grand-père l'a interrogé. Il dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Que veulent-ils ? Etc. Il n'arrivait pas à... Et il était plutôt enclin, donc, à traiter ça... si vous voulez, d'un point de vue du maintien de l'ordre classique, quoi. Et au bout d'un certain temps, parce que les troupes quand même prenaient de l'ampleur, au quartier latin il y avait des barricades, etc., il souhaitait qu'il y ait une réponse vraiment très, très, très vive, très forte.
Oui, répressive.
Peut-être même avec l'intervention de l'armée. C'est d'ailleurs Pierre Messmer, qui était à l'époque ministre des armées, qui l'en a dissuadé en lui faisant valoir que les militaires n'étaient pas formés au...
pas compétents pour ce type de choses.
Et que ça risquait d'avoir un effet absolument contre-productif. Et Georges Pompidou, lui, avait un autre point de vue. D'abord, il était quand même d'une autre génération, d'une autre culture aussi, il faut bien le dire. Il était... c'est là où on retrouve sa personnalité. C'était quelqu'un qui avait une personnalité à certains égards paradoxale. C'était quelqu'un, on retrouve ça, on va le voir dans le livre, qui était à bien des égards un traditionnaliste, et de plus en plus finalement, mais qui était très ouvert sur ce qu'on appelle la modernité. Et il avait été très frappé. 6 mois avant ces événements de mai, il y avait eu, était sorti le film de Godard, La Chinoise, qui était une sorte d'objet non identifié, qui avait désarçonné beaucoup de spectateurs. Et Pompidou organisait des séances de cinéma à Matignon, où il invitait quelques amis. Et on avait projeté La Chinoise, et les invités de Pompidou avaient exprimé leur désarroi, leur circonspection. Et Pompidou avait dit, plusieurs témoins l'ont rapporté, bon, bah, effectivement, c'est quelque chose de curieux, on n'arrive pas très très bien à voir ce que ça signifie, mais ça annonce sans doute quelque chose. De sorte que quand les événements de mai ont éclaté, on ne peut pas dire qu'il n'ait pas été surpris, tout le monde l'a été, mais... Il a été, en tout cas, l'un des seuls à hiérarchiser les problèmes, à voir que qu'il y avait d'abord cette révolte étudiante qui comprenait à certains égards. Et puis, il a bien vu que la chance, au fond, du pouvoir en place, c'était que le Parti communiste, finalement, constituait dans cette situation une sorte de force de stabilité qui... Puisqu'il y a eu finalement, sauf à la fin du mois de mai, il y a eu une tentative de regroupement de toutes ces forces. Mais voilà, c'est pas allé très très loin, et le Parti communiste finalement a joué quand même, Peut-être aussi parce qu'il avait une certaine sympathie pour la politique extérieure de De Gaulle, ça a joué, ça. Il y a eu un effet stabilisateur. Donc,
oui, puis sociologiquement, probablement que la classe ouvrière ne se sentait pas tout à fait solidaire.
Voilà. Il y avait eu quand même un mécontentement social.
Oui, mais c'était d'une autre nature, hein. On est d'accord. Que lorsque les ouvriers se joignent au mouvement, c'est sur leur propre revendication,
oui, voilà.
Leur propre agenda.
Oui, parce qu'il faut dire...
Il n'y a pas fusion.
Non, il n'y a pas fusion. Non, il y avait eu un retard des bas salaires. Ça, on le voit très très bien. Dans le, ça n'a pas joué très longtemps. Et donc, pour en revenir à Pompidou, il s'est dit que face à cette situation, qui était évidemment extrêmement préoccupante, il fallait surtout éviter que les choses se tournent au tragique et donc qu'il y ait des morts. Quoi. C'était ça son obsession. Et cette obsession a rencontré celle du préfet de police de l'époque, Maurice Grimaud, que j'ai bien connu, qui était même un ami, et qui était un personnage qui était venu d'une autre sensibilité, puisqu'il était mendésiste. Il avait été nommé préfet de police, il avait remplacé Papon, peu de temps auparavant, d'ailleurs. Et donc Grimaud était quelqu'un qui était... lui, il n'était pas normalien, mais il avait préparé normal dessus, mais c'était aussi un homme de grande culture. Et bien que extérieur, finalement, il connaissait très très peu Georges Pompidou. Il avait des rapports uniquement hiérarchiques avec lui. Mais il n'y a aucun doute qu'il y a eu une heureuse collusion, j'allais dire, entre eux. Et c'est sans doute grâce à la conjonction de leurs efforts que le pire a été évité. Bon, donc, Georges Pompidou... joue un rôle donc très, très important et stabilisateur dans ces événements de mai 68. Et l'opinion l'a très bien senti. Elle a très bien senti que De Gaulle avait eu du mal à suivre la situation. Son âge aussi s'est révélé à ce moment-là. En plus, pour dénouer la crise... c'est Pompidou, finalement, qui a trouvé la porte de sortie, puisque le général l'avait proposé dans un premier temps un référendum sur la participation, qui était tombé, il l'a dit lui-même, il dit j'ai mis à côté de la plaque, ça n'avait eu aucun effet. Et c'est à la suite de cet épisode de la disparition à Baden-Baden, De Gaulle revient, et là, Pompidou le force à renoncer, il le force vraiment, à renoncer au référendum et à organiser des élections législatives avec l'idée que sur le plan local, les choses prendront une autre tournure que ça, parce qu'il y a des facteurs locaux, etc. Et ça a été un calcul qui s'est révélé exact, puisque la majorité, il y a même une chambre, ce qu'on appelle une chambre introuvable à l'Assemblée nationale. Mais cette majorité, finalement, elle était beaucoup plus, elle s'est formée, constituée beaucoup plus sur le nom de Pompidou que sur le nom de De Gaulle. Et ça a aggravé, évidemment. Il y avait déjà eu entre le général et Pompidou, un hiatus de plus en plus important au cours des événements, et on peut même dire qu'il y avait un conflit, et puis Pompidou n'a jamais admis le fait que le général ait pu quitter la France sans lui dire. Ça a été le point de rupture. Et donc il a été remplacé par Maurice Couve de Murville après les élections. Mais il était devenu, c'était une situation qui était tout à fait inédite, puisque De Gaulle était toujours président de la République, mais Pompidou était une sorte de dauphin, quoi, et de dauphin qui devenait de plus en plus, qui avait derrière lui une opinion, quoi.
Ce qui est quand même frappant en feuilletant ce livre, donc écrit juste après les événements, c'est qu'au-delà de la capacité à gérer ces événements, ou prendre la juste mesure, il y a une analyse très fine, sociologique, voilà. Et aussi des tensions qui s'expriment à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il comprend que ce n'est pas un mouvement, que ce n'est pas une insurrection marxiste qui prépare une prise de pouvoir du Parti communiste ou de groupes gauchistes divers. Il comprend aussi, parallèlement, que ce n'est pas une simple comédie, mais que c'est quelque chose d'extrêmement révélateur,
voilà,
de mouvements souterrains dans la société.
Voilà, c'est tout à fait ça.
Et au fond, à l'issue du livre, on se rend compte que le nœud gordien, celui qu'il va falloir trancher, c'est celui qui est apparu à ce moment-là.
Voilà, c'est ça.
Tension entre la société de consommation, les aspirations de l'homme. Au fond, j'ai l'impression qu'il voit les événements de mai 68 comme un moraliste, et avec la profondeur d'un moraliste.
Oui, c'est tout à fait exact, et aussi une sorte de une vue historique. Il ne faut pas oublier qu'il avait préfacé une sélection un choix des origines de la France contemporaine de Taine. Donc c'était quelqu'un qui était formé, si vous voulez, intellectuellement, à voir ce que les historiens maintenant appellent le temps long et les forces profondes, finalement, à l'œuvre dans une société. Et il avait bien senti, finalement, qu'au cours de ces années 60, il s'était passé quelque chose qui avait échappé beaucoup à l'analyse, mais que l'on a bien vu après. Et d'abord, un fait tout à fait qui aujourd'hui apparaît comme quelque chose de très important, c'est qu'à partir des années, juste après le Concile, l'espérance en un au-delà s'effondre dans la société française. Et ça, c'est un changement radical. Alors ça engendre beaucoup de choses, c'est-à-dire toutes les revendications féministes, la contraception, etc. Alors, il est évident que De Gaulle, lui, par sa formation, était peu enclin à, même s'il a finalement admis la pilule, mais ça n'a pas été, il a fallu un peu lui forcer la main. Il était, toutes ces aspirations qui ont commencé à se révéler au fond au moment de l'élection présidentielle de 65, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 65, François Mitterrand, qui était le candidat de la gauche, avait fait campagne sur ces thèmes de libération, des mœurs, etc. Enfin, ça n'a pas pris un caractère festif, disons, mais ça, il était entouré de gens qui avaient pris en compte de façon sérieuse ces revendications.
Peut-être qu'on peut lire un extrait de l'ouvrage sur justement ces tensions et la façon dont il ressent que ça révèle un malaise très profond et qu'il va falloir résoudre. Ça fait tout à fait écho à ce que vous venez de dire. « Il est clair, écrit donc Georges Pompidou, que pour ceux qui se donnent la peine de penser, et aussi pour une grande partie de la jeunesse, le matérialisme de la société d'abondance ne satisfait pas les aspirations de l'homme et ne donne pas un sens suffisant à la vie. Il ne faut d'ailleurs pas exagérer. La pauvreté, ou tout au moins la médiocrité, n'a pas encore été éliminée de notre société, et ce n'est pas par hasard que les jeunes bourgeois étaient en majorité parmi les étudiants qui dressaient des barricades. Pour une grande partie de la population, la société de consommation signifie encore l'amélioration de son niveau de vie et donc, dans une large mesure, une libération. La machine à laver n'a pas le même sens pour un ouvrier ou un paysan que pour M. Marcuse. Pour cela, elle signifie moins de travail, donc moins de peine pour leurs femmes, et ce n'est pas rien. Mais on voit bien qu'approche le moment où le logement HLM, même confortable, même doté de réfrigérateurs, de la machine à laver, de la cuisinière électrique et de la télévision, et complété par la voiture individuelle, n'apparaîtra que comme un cadre de vie, l'élimination d'un certain nombre de difficultés et de souffrances, mais laissera intact, je veux dire non résolu, et le problème du bonheur, et celui du sens de la vie.
Oui, ça, c'est très bien vu. C'est une analyse qui est vraie, et puis qui a été vérifiée par.
Alors, face à ce constat qui est implacable.
C'est-à-dire Pompidou comprend au fond ce qui se passe, mais il s'inquiète notamment du fait qu'il y a une poussée, disons, d'individualisme, on peut dire, toute la dimension, ce que les sociologues appellent la dimension holiste de la société, les disciplines collectives, évidemment, ont beaucoup plus de mal à s'imposer dans une société comme ça, qui est dominée par l'individualisme, et puis, il faut bien dire, des objectifs immédiats. Tout ce qui se situe à long terme, évidemment, a du mal à être pris en compte. Et ne parlons pas, évidemment, de tout ce qui implique des sacrifices, etc. Enfin, on passe d'une... En 68, finalement, on est quand même pas... On est, 50 ans après la guerre de 14. Donc c'est pas si loin que ça. Et ce sont deux mondes absolument... radicalement opposés en termes de psychologie collective. Et ça, Pompidou voit bien que ça ne fera que croître et qu'on aura de plus en plus de mal à imposer des disciplines collectives. Et donc il s'en inquiète beaucoup. Et c'est, alors c'est ça qui donne d'où le titre du livre. Il se demande si ça ne provoquera pas des désordres tels qu'un jour... quelqu'un rétablira une discipline par la force. Et il essaie, alors, c'est pas du tout ce qu'il souhaite, mais il s'en inquiète et il appelle, au fond, c'est un appel au calme, enfin, à la raison, afin que cette situation de tension ne débouche pas sur une... Il a même cette formule qui est tout à fait prémonitoire. Il dit quelqu'un tranchera le nœud gordien, donc le titre du livre, et il dit le fascisme n'est pas si improbable, il est même plus près de nous sans doute que le totalitarisme communiste.
Oui, à une époque où l'URSS représente une puissance non négligeable, c'est moi qu'on puisse dire.
Et c'est tout de même assez prémonitoire, dans la mesure où aujourd'hui, on voit, le fascisme heureusement n'a pas triomphé, mais enfin il y a quand même dans toutes les sociétés occidentales, enfin même dans le monde entier, il y a une tentation autoritaire qui se manifeste un peu partout. Au fond, les régimes qui sont apparus, notamment en Asie, les régimes comme Singapour, tendent de plus en plus les démocraties occidentales. Il y a même en France, il y a un sondage qui a montré que les jeunes étaient disposés à voir apparaître un régime qui serait plus restrictif en matière de liberté et plus efficace. Donc ce sont autant de signes qui montrent que l'évolution que prédisait Pompidou est assez juste. Ça...
Il y a d'ailleurs dans le même... Il y a beaucoup de passages qui sont... presque de l'ordre de la prémonition. Vous avez cité donc ces craintes qui sont là d'ordre politique, que ce soit un nouveau César qui tranche le nœud gordien, mais il y a aussi des pages que je trouve incroyablement, d'une lucidité incroyable, à propos des dérives possibles de la technologie. Est-ce que vous me permettez d'en lire un extrait ?
Bien sûr.
Cela fait écho à notre époque. « Je veux dire que la République ne doit pas être la République des ingénieurs, des technocrates, ni même des savants. » Je soutiendrais volontiers qu'exiger des dirigeants du pays qu'ils sortent de l'ENA ou de Polytechnique est une attitude réactionnaire qui correspond exactement à l'attitude du pouvoir royal à la fin de l'Ancien Régime, exigeant des officiers un certain nombre de quartiers de noblesse. La République doit être celle des politiques, au sens vrai du terme, de ceux pour qui les problèmes humains l'emportent sur tous les autres, ceux qui ont de ces problèmes une connaissance concrète, née du contact avec les hommes, non d'une analyse abstraite ou pseudo-scientifique de l'homme. C'est en fréquentant les hommes, en mesurant leurs difficultés, leurs souffrances, leurs désirs et leurs besoins immédiats tels qu'ils les ressentent ou tels parfois qu'il leur faut leur apprendre à les discerner, qu'on se rend capable de gouverner, c'est-à-dire effectivement d'assurer à un peuple le maximum de bonheur compatible avec les possibilités nationales et la conjoncture extérieure. L'époque n'est plus à Louis XIV dans son palais de Versailles au milieu de ses grands, mais rien n'y ressemblerait davantage qu'un grand ordinateur dirigeant de la salle de commande électronique le conditionnement des hommes. Mieux vaut encore, pour prendre un exemple concret, un patron de combat contre lequel les syndicats puissants défendent les droits des travailleurs qu'une machine IBM réalisant les conditions propres à obtenir le rendement maximum dans une ambiance de musique douce et de couleurs apaisantes. Le bonheur que nos ingénieurs préparent à l'homme de demain ressemble vraiment trop aux conditions de vie idéales pour animaux domestiqués. En vérité, l'avenir serait plutôt à Saint-Louis, tel qu'on se l'imagine, sous un chêne au milieu de son peuple, c'est-à-dire à des chefs ayant une foi, une morale et répudiant l'absentéisme du cœur. C'est une belle formule.
Oui.
Et...
C'est une sorte un peu d'autoportrait, encore que, évidemment, Pompidou n'est certainement pas l'ambition d'être Saint-Louis.
Mais ce sont des phrases qui sont presque, pourraient être sous la plume de Bernanos, vous ne trouvez pas ?
Oui, c'est vrai, ça témoigne d'une très grande profondeur.
On pressent qu'il a, avec quand même quelques 40 ans d'avance, vu à quel point... le développement nouveau des sciences et notamment de l'informatique, à laquelle il a contribué d'ailleurs par le plan calcul, pouvait avoir un impact incroyable sur la société et mettre la société en pilotage automatique. C'est-à-dire que lorsqu'il explique que le fascisme n'est pas improbable, on a un peu le sentiment qu'au-delà du fascisme politique au sens strict, il voit naître des forces qui pourraient enserrer la société et la priver de choix parce que, comme certains le prônent aujourd'hui, un algorithme, lui, ne se trompe pas.
Voilà, exactement. Oui, c'est tout à fait...
Et au fond, La voix qu'il nous fait entendre, la petite musique qu'il nous fait entendre dans le nœud gordien, c'est celle, je ne sais pas si vous serez d'accord avec cette formule, d'un humanisme inquiet.
Voilà, c'est ça, c'est exactement ça, oui, c'est tout à fait ça. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est à la fin du livre, ces pages-là que vous avez évoquées, où il évoque au fond l'art de gouverner. Et ce sont des pages qui, je trouve, sont d'une très grande actualité.
Parce qu'elles sont intemporelles, oui, peut-être.
Voilà. Et en plus, Pompidou parlait d'expérience, parce qu'il avait été, lorsqu'il est devenu Premier ministre en 62, c'est l'époque où ce qu'on appelle les techniciens commencent à s'imposer Alors ça a des avantages, parce que c'était quand même des gens compétents. Il y a eu toute une génération de hauts fonctionnaires qui sont apparus après la Seconde Guerre mondiale, et qui ont été des gens de très, très haut niveau. Et qui, alors ça c'était apparu avant le début de la Ve République, notamment autour de Pierre Mendès-France, il y a eu un certain nombre de gens de...
Ils ont eu leur part dans la modernisation de l'époque.
Voilà. Autour de Monet aussi. Donc il y a eu tout un mouvement de gens qui étaient des gens de haut niveau et des intéressés aussi. Enfin, qui avaient une vision, une réelle vision de l'avenir, etc. Mais il est certain que petit à petit, ça correspondait au fond du côté du général de Gaulle à un certain goût, parce qu'il avait, lui, quand il est devenu président de la République, il a un petit peu composé son gouvernement. Il avait toujours un peu cette formule à l'esprit, le plus ancien dans le grade le plus élevé. Quoi. C'était un peu sa tendance. Il se méfiait de tout ce qui était trop politique, enfin, de la classe, ce qui pouvait rappeler l'ancienne classe politique des 3e et 4e républiques, qui était encore subsistante et qui d'ailleurs pour l'essentiel lui était très opposée. Donc sa tendance était de faire place justement à ces techniciens. Alors Pompidou n'était pas du tout hostile à ça, il reconnaissait évidemment, il y avait autour de lui des gens aussi de ce type de formation, de grande valeur. Simplement, il pensait que pour gouverner, il fallait autre chose, pour assumer les responsabilités, et que le contact avec le terrain était fondamental. Et c'est là où on retrouve le côté 3e République, au bon sens du mot, parce que de Pompidou. Parce qu'il considérait que ce type de démocratie, avec la démocratie représentative, même débarrassée de ses excès, c'est qu'elle avait connu sous les 3e et 4e République, restait quand même quelque chose d'important, et parce qu'elle permettait l'émergence d'élus qui avaient une connaissance du terrain et qui étaient capables d'être des contrepoids, en quelque sorte, à du pur technicien qui, dans l'esprit de Pompidou, n'était pas appelé à diriger tout de façon automatique.
Oui, la part du politique et celle du technocratique était bien délimitée. Et de fait, ça fait écho à ce que vous venez de dire, on sent qu'il n'est pas du tout pour un pouvoir jouant de la désintermédiation et s'adressant directement aux Français dans une forme de fonction tribunicienne. Au contraire, il est plutôt dans une relation où on respecte les corps intermédiaires, les corps constitués, dans une volonté d'équilibre et de construction
Oui, c'est
projet.
Une sorte de rééquilibrage du gaullisme, d'ailleurs, parce que c'est...
Mais probablement parce qu'il était extrêmement conscient que le modèle précédent s'attachait non aux institutions comme on aurait pu le croire, mais à la personne du général de Gaulle, bien évidemment. Et au fond, vous l'avez dit, c'était un homme d'une immense culture et d'une grande sensibilité. On se demande si, pour diriger dans sa méfiance à l'égard d'une prise de pouvoir des organes technocratiques ou mécaniques, sa sensibilité littéraire n'a pas joué un rôle majeur, parce que finalement c'est quelqu'un qui peut-être sentait mieux hommes grâce à la littérature et à la poésie.
Et les situations aussi, il n'y a aucun doute qu'en mai 68, le fait d'avoir cette ouverture sur la littérature, dans ce qu'elle avait de plus moderne d'ailleurs, parce qu'il s'intéressait aux nouveaux romans. Rien n'avait de tout ce qui s'était exprimé de novateur à cette époque-là ne lui avait échappé. Donc il avait des antennes, si vous voulez, que d'autres n'avaient pas. Et le fait d'être un homme de grande culture a certainement beaucoup joué dans l'appréhension qu'il a eue des problèmes qu'il a eu à résoudre.
En tout cas, nul ne sait, parce que le destin en a décidé autrement, si une action plus longue à la tête de l'État lui aurait permis de trancher ce fameux nœud gordien, et de trouver des solutions à cette crise du monde contemporain, à cette angoisse presque métaphysique, et portant sur le sens de la vie. Mais une chose est sûre, aujourd'hui, il n'est toujours pas tranché, ce nœud gordien.
Non. Mais pour évoquer la suite à ce que vous venez de dire, bon, il est certain que l'apparition de la maladie, très tôt d'ailleurs, puisqu'on a décelé les premiers signes de cette maladie, même avant même qu'il soit président de la République, enfin juste au moment où il a écrit le livre. Voilà. Mais à ce moment-là, on n'avait pas vraiment on avait vu qu'il y avait un certain désordre, mais on n'avait pas décelé exactement la maladie, c'est seulement en 72 qu'il est apparu, qu'il souffrait de cette maladie de Waldenström. Et dans une forme d'ailleurs qui est... Parce que maintenant on sait qu'il y a deux formes de maladie de Waldenström, une forme pas bénigne, mais enfin disons, qui permet une espérance de vie assez long terme, et sans trop de problèmes. Et puis il y a une forme agressive dont malheureusement il a été victime, et assez rapidement. Et il est évident que l'apparition de cette maladie, notamment dans les dernières années, où les effets se sont fait vraiment sentir, l'a conduit à avoir une autre vision. Je pense que ça a changé quand même pas mal de choses dans sa perception des événements. C'est évident que quelqu'un qui... Je ne crois pas qu'il ait su vraiment... quelle maladie il avait, ni le terme. Enfin, il était très intelligent, il voyait bien qu'il était diminué, que sa santé s'altérait de semaine en semaine. Donc forcément, ça a induit un certain pessimisme, et un pessimisme qui existait d'ailleurs, parce qu'il avait... C'est pas quelqu'un qui était un optimiste béat, Pompidou.
Mais il dit qu'il était optimiste dans l'homme. Hein.
Voilà, oui.
Comme tout humaniste qui se respecte, il disait quand même qu'il était optimiste dans l'homme. Il raconte une rencontre avec Adenauer, je crois, qui dit alors, Pompidou, vous êtes optimiste ou pessimiste, et sa réponse, c'est de dire qu'en tout cas, il est optimiste parce qu'il a foi dans l'homme.
Et puis c'était un homme qui aimait la vie aussi, il faut le dire. Il était, comme on l'a décrit, un hédoniste échevelé, mais enfin, il aimait il avait un certain art de vivre. Enfin, c'était pas un personnage austère. Bon, il était évident que le fait de... À un âge, quand même, il était jeune, hein, il est mort à 63, 64 ans, d'être atteint par cette terrible maladie, a changé son caractère, et à mon avis a changé aussi la fin de son mandat, parce que il y avait une évolution les événements aussi ont eu leur poids, mais je pense qu'il était si vous voulez, le pessimisme chez Pompidou a fini par s'imposer de plus en plus quand même. Et c'est bien normal, étant donné sa maladie.
Moi, je ne sais pas si je prendrais le terme de pessimisme, mais d'anxiété et d'inquiétude, c'est certain. Oui. Comment ne pas l'être 40 ans plus tard, en tout cas. Et c'est pourquoi je pense que la lecture du livre est extrêmement intéressante, car elle éclaire non seulement l'époque dans laquelle le livre a été écrit, mais aussi la nôtre, car il y a de nombreuses pages où Pompidou s'interroge sur l'avenir, et donc nous permet de trouver du sens et des repères dans notre époque, et un contrepoint qui est tout à fait bienvenu. Et si vous le permettez, en guise de conclusion, je voudrais citer une phrase de Chateaubriand, que justement Pompidou cite en conclusion de son ouvrage comme une ligne de conduite pour l'avenir et pour les dirigeants français. Cette phrase de Chateaubriand est la suivante, elle est très très belle. « Je n'étais bon ni pour tyran, ni pour esclave. » C'est peut-être cela la voix tempérée, sage de Georges Pompidou, et comme un bréviaire intemporel.
Merci.
Merci à vous. je rappelle les... Évidemment, puisque j'incite à lire le livre, il faut que j'en donne les références. Il s'agit donc de Georges Pompidou, Le Nœud Gordien, avec une préface de notre invité Éric Roussel, aux éditions Perrin. Merci encore, monsieur.
Merci. Thank you.